Je voudrais savoir quand France Inter va arrêter cette émission lamentable. Le plus vite possible, j'espère. Au revoir.
Salut Daniel. Salut chers AMG. C'est Yann de Saint-Rognon. Un petit renseignement généreux pour vous. J'ai lu ce matin, mercredi, dans le Figaro, que Noël Forgeard ne savait pas qu'il y avait du retard sur la 380. Donc, le PDG, ou du moins le DG, le directeur général d'Airbus, ne savait pas que dans ses ateliers, il y avait un an et demi de retard sur le plus gros porteur au monde, sur la star, le produit star de son entreprise. Eh bien, il a reçu 8 millions d'euros de stock options. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Jamais dans la société élitiste qui se prépare devant nous, l'ignorance n'aura été aussi bien payée.
Ouais, salut Daniel, c'est Mike du Nord de Lille. J'ai une bonne blague à te raconter. Monsieur Lagardère, est-ce que tu sais ce qu'il a dit à la radio, enfin en tout cas à un certain nombre de médias, suite à son audition concernant l'affaire EADS? Ben, ce monsieur, il a dit qu'il avait agi en patriote. Voilà. Ce monsieur était donc un patriote. Et à ce titre, ben, je tenais à le féliciter. Voilà. C'est un patriote. Salut Daniel. Ciao.
Oui, bonjour. Pierre du Tarn, je viens d'entendre une info sur France Inter, comme quoi on allait, par rapport au Grenelle de l'environnement, comme quoi on allait suspendre les OGM, les semis d'OGM. Mais ça me fait rire parce que nous sommes le mois de novembre et jusqu'au mois de février prochain, il est impossible de semer en France, en tout cas, des OGM, surtout du maïs. Voilà, alors ça m'amuse beaucoup de dire ce genre de bêtises totales. Alors que c'est voilà, ça fait que repousser les choses et ça change rien, mais alors rien du tout au problème. Merci Daniel, à bientôt, ciao.
Ouais, salut Daniel, salut toute l'équipe de Là-bas si j'y suis. Je vous appelle pour me faire le relais d'une initiative qui passe sur internet. Voilà, alors le 29 mai 2005, on était une large majorité de Français, 54,7% à dire non par référendum à la Constitution européenne, au projet de Constitution européenne. Et là, le 19 octobre 2007, le président de la République signe un traité européen censé remplacer la Constitution et il annonce qu'il la fera ratifier par la France sans référendum via le Parlement. Or, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ces traités, ils sont identiques. Le nouveau traité européen de 256 pages, qui est dit modificatif, est en fait la copie conforme de la Constitution de Giscard. Seule différence, l'article sur les symboles de l'Union a disparu, mais il n'avait aucune portée, et le ministre des Affaires étrangères de la Constitution a changé de nom, juste de nom. Bref, tout est identique, tout ce qu'on avait rejeté au prix d'une lutte acharnée est dans le nouveau traité. On ne peut pas accepter ça. Le Parlement ne représente pas correctement l'opinion des Français, puisqu'en 2005, quand 54,7% des électeurs disaient non, les parlementaires disaient oui à 93%. Le fossé est donc large. Donc, on exige un référendum. On connaît l'Europe que les ultralibéraux veulent nous vendre, celle où l'argent circule mais pas les hommes, l'Europe des patrons au nom de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, l'Europe où seuls les produits de luxe baissent, l'informatique et les écrans plasma, et où les denrées alimentaires explosent. 30% sur le gaz, 72% d'augmentation sur le fuel, 85% sur les baguettes, 180% sur le café. Étude de l'Indépendant du 13 août 2007. Donc refusons qu'on nous vole la démocratie. La tenue d'un référendum, elle est possible sur demande d'un million de Français. Alors allez sur http://referendum-europe2007.free.fr. Il y a 5000 signataires pour l'instant, mais on était 16 millions à avoir voté non le 29 mai 2005, selon le ministère de l'Intérieur. La résistance, ça commence aussi par là.
Eh bien, je ne vois pas pourquoi les 500 millions d'Européens seraient obligés de se serrer la ceinture, alors que les 3 milliards de Chinois et d'Hindous continuent de vivre à leur guise. J'appelle ça de la ségrégation.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Voilà un petit extrait de la lettre écrite par les habitants de Maripasoula, qui est quand même la plus grande commune de France, à Nicolas Sarkozy, en Guyane, évidemment. Depuis plusieurs années, l'État français laisse l'orpaillage illégal s'installer en Guyane. En plus des conséquences écologiques, le délabrement social prend des proportions scandaleuses dans la région du Haut-Maroni. nous arrivons tout simplement à une situation de pré-guérilla en France. Sous nos yeux, orpailleurs illégaux et amérindiens Wayana et Émerillon des villages de Cayedé et La Haye, village de la commune de Maripasoula, sont en train de se faire la guerre sur la rivière Waki-Tampok. Face à un désengagement manifeste de l'État français, les Wayana et Émerillon ont été obligés de se débrouiller seuls pour protéger leur lieu de vie, la forêt et le fleuve, mettant en place un système dangereux et à double tranchant de barrages et de taxes au passage de pirogues d'orpailleurs. Se faire justice soi-même n'est jamais bon. C'est ce qu'on nous apprend à l'école républicaine. C'est interdit par la loi. Mais si personne n'est là pour la faire respecter... Alors, Monsieur le Président, vous qui proclamez comme... qui vous proclamez comme le champion de la sûreté intérieure, le caïd de la lutte contre la clandestinité et le travail illégal, nous vous prenons au mot. Aujourd'hui, dans la forêt française de Guyane, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui passent le karcher, mais bien la racaille qui, avec ses lances à eau de haute pression, sape les berges des cours d'eau, les transformant en de stériles évacuations de boues troubles et mercurées. Les riverains, acculés à une mort lente, ont décidé de se battre seuls. Faudra-t-il attendre la mort des citoyens pour que l'État mette enfin les moyens réellement nécessaires pour éradiquer leur paillage clandestin? Quel est l'intérêt de la France à laisser s'installer le chaos? Merci, c'était Seb de Guyane. À bientôt.
Eh oui, on vous l'avait bien dit, fidèles auditeurs AMG, auditeurs modestes et géniaux de la basse, j'y suis, il y a plusieurs années, 8, 9 ou 10, je sais plus, on était en Guyane avec le camarade Guy Van Cotil et on avait raconté toutes ces histoires d'orpaillage, d'orpailleurs et de conflits avec les autochtones Wayana et Émerillon. Et c'est intéressant de voir que ça n'a fait que s'aggraver, visiblement, d'après ce que nous dit cet auditeur. Et ça nous rappelle à la modestie journalistique, c'est-à-dire que nous, les journalistes, on est toujours là en train de faire sortir des événements brutalement, comme ça. Et ben non, les choses évoluent lentement. Il y a des maturations, il y a des fermentations lentes. Et voilà, ça s'aggrave dans ce coin de la Guyane, autour de Maripasoula, en effet, où les orpailleurs qui, à l'époque, disaient qu'ils observaient toutes les normes de sécurité, notamment en matière de pollution au mercure, et évidemment, c'était faux. Alors, reste à se demander pourquoi les orpailleurs procèdent de cette façon. Ben, généralement, c'est que ce sont des gens qui essayent de survivre, de vivre comme ils peuvent, et évidemment sans respecter la loi, mais on voit que c'est très tendu. Aujourd'hui, on reste, nous, dans notre bel hexagone, avec un problème qui est caché par un autre, un petit peu comme les trains, vous savez, et c'est la question des franchises médicales. Les franchises médicales, ça risque d'être une bagarre assez chaude dans les jours et semaines qui viennent. On va essayer de comprendre pourquoi, dans leur majorité, les franchises médicales sont refusées, déplaisent. En tous les cas, c'était le cas au mois de mai. 61% des Français étaient défavorables aux franchises médicales. Si gentiment proposé par notre nouveau président de la République. On va voir pourquoi ça déplaît à certains. Il y a toujours des mécontents. Et vous savez comment sont les mécontents en France. Ils grognent. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonsoir. Un petit renseignement généreux. La croissance aggrave la misère de beaucoup. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Jacques Attali. Oui, vous avez bien entendu, celui qui est à la tête d'une commission en charge de trouver des moyens de libérer et stimuler la croissance en France, écrit page 155 de son livre « Une brève histoire de l'avenir », la croissance aggrave la misère de beaucoup. Dans cet opus de science-fiction socio-économique, ce brillant penseur prétendument de gauche nous explique comment la 9e vague du capitalisme mondial que nous traversons actuellement, basée sur les théories économiques néolibérales, de prédominance absolue du marché, de marchandisation des services publics, de financiarisation extrême de l'économie, d'individualisme forcené, produit des effets de plus en plus pervers, menace la démocratie et creuse les inégalités. Cette frénésie ultralibérale va, selon Jacques Attali, nous conduire au cours des 50 prochaines années vers un chaos absolu. Alors je m'interroge, soit Attali est un illuminé, fils caché de Nostradamus, il faudrait peut-être faire un test ADN, et sa vision de l'avenir n'est alors que le fruit des élucubrations d'un cerveau malade, soit il est intellectuellement malhonnête et en pleine contradiction en prenant la tête d'une commission portant son nom, dont l'objectif affiché est toujours plus de marché et de libéralisme. Dans un cas comme dans l'autre, je suis très inquiète. Que Sarkozy ait choisi un prétendu homme de gauche pour mener à bien cette périlleuse mission consistant à faire rentrer la France, enfant rebelle de l'Europe libérale, dans les rails du capitalisme moderne, c'est plutôt malin, on n'en attendait pas moins de lui. Pour ma part, l'habit ne faisant pas le moine, il y a longtemps que je sais que le col Mao ne suffit pas à faire l'homme de gauche. Voilà, c'était Véronique à Montpellier. Au revoir.
Bonjour les auditeurs modestes et géniaux. Depuis vendredi dernier, les employés du géant casino de Decazeville sont en grève pour protester contre des conditions de travail indignes d'un être humain. En effet, ouverture de plus en plus tardive après 20 heures, travail le dimanche, travail les jours fériés, et pour gagner moins de 1000 euros après 30 ans de boutique. Je suis client de Géant et je ne fais plus mes courses dans ce magasin parce que je suis solidaire de mes amis, de mes amieux, de mes copains, de mes copineux, ou de tous les gens que je ne connais pas mais qui me servent avec gentillesse, avec grand sourire. Alors, en tant que client de Géant, solidaire des grévistes, je viendrai vendredi à la manifestation de soutien à 17h15. Voilà, c'était Jean-Marie de Decazeville, en Aveyron. Le bien bonjour à tout le monde.
Oui, bonjour, c'est David à Montreuil-sous-Bois. Il s'est passé quelque chose d'assez sympa aujourd'hui à Montreuil. Demba, un client de la BNP, la Banque Nationale de Paris, est venu retirer de l'argent dans son agence bancaire, et pendant qu'on le faisait attendre, puisque Demba est sans papier, les banquiers, les gens de la BNP, ont prévenu la police de façon à ce que la police puisse venir l'arrêter à la sortie de l'agence. Donc Demba, qui venait simplement retirer de l'argent qu'il avait passé sur son compte, s'est retrouvé en centre de rétention, pour l'instant en préfecture à Bobigny, mais en tout cas expulsable rapidement. Donc voilà, ça rappelle des temps que je crois on pensait que qui étaient révolus. Eh bien non, ils ne le sont pas. Donc voilà, c'était David à Montreuil.
Salut Daniel et salut à tous les auditeurs. Nous sommes des salariés en grève de l'énorme groupe Neuf CGTL. Et depuis le rachat de notre centre d'appel de Marseille par Neuf, nos conditions de travail se dégradent, les amplitudes horaires augmentent et on revient à du travail dominical sans aucun volontariat. L'annualisation du temps de travail ne nous permet pas de bénéficier du « travailler plus pour gagner plus ». Seule la première partie de la phrase s'applique à nous. À chaque revendication de notre part, il est répondu par des menaces de délocalisation. Vous savez que le groupe Neuf fait des profits incroyables. Au premier semestre, 103 millions d'euros, rien que ça. Et les seules préoccupations de ses dirigeants, c'est de presser un peu plus les salariés les plus fragiles. Donc merci de nous soutenir en envoyant un mail à neufrevendique@gmail.com. Neuf revendique, neufrevendique@ @gmail.com. Merci.
Le maintien d'un monopole était une atteinte aux droits de l'homme. C'est-à-dire que la liberté de l'homme consiste à dire que je peux aller m'assurer si je veux où je veux.
Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchisme médical.
Quand 10 à 20% des Français auront une assurance privée pour couvrir tous leurs frais médicaux libéraux, ils ne voudront plus cotiser à la sécurité sociale. Et ça, c'est la fin du système de répartition solidaire.
Nous n'allons pas assurer n'importe qui, n'importe comment. Et nous allons prendre quelques renseignements sur la personne.
Le but n'est pas de sauver la sécurité sociale et de combler un mythique trou de la sécu qui serait lié aux dépenses inconsidérées des Français. Le but, c'est de dire, regardez, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, ça marchera mieux si on le passe au privé.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert. Nous ne sommes pas coupables d'être malades.
Flight number 2, arriving from New York.
Sur chaque recours au système de santé, une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments, 50 centimes, de 50 centimes sur les actes paramédicaux et de 2 euros sur les transports sanitaires. Cette franchise, je souhaite qu'elle s'accompagne de 3 garanties au moins. Je souhaite d'abord un plafond global annuel de l'ordre de 50 euros. Je ne veux pas que la franchise puisse coûter plus de 50 euros à un assuré par an. 4 euros par mois. Qui va oser me dire que, compte tenu du défi que représente pour la société Alzheimer, le cancer, les soins palliatifs, les besoins de la recherche, on ne peut pas mettre 4 euros par mois?
Eh ben oui. Eh ben oui. Même comme ça, il y en a qui sont contre. 4 euros, 4 petits euros de rien du tout, si gentiment demandés, il y en a qui refusent. C'est contre le cancer, c'est contre Alzheimer, c'est pour les soins palliatifs, c'est pour la recherche, et il y en a qui ne veulent pas de cette réforme. Ils veulent garder leur privilège de nantis, leur privilège d'assister. Ils refusent, ils sont quand même assez nombreux. Je le disais, 61% en mai dernier étaient défavorables à ce projet de réforme des franchises médicales. Il circule une pétition appel contre les franchises et pour l'accès aux soins pour tous qui a reçu 70 000 signatures. Et cette affaire est très intéressante et très importante. C'est un sujet qui peut sembler un peu à l'abord rébarbatif, mais on va voir que c'est beaucoup plus passionnant qu'il n'y paraît. La sécurité sociale, c'est 1945. 1945, c'est le Conseil national de la résistance. Et sur cette base, on peut dire idéologique, politique, que la sécurité sociale a été créée et a été créée sur la solidarité. C'est-à-dire que on cotise, les patrons cotisent, les salariés cotisent. Et lorsqu'on est malade, eh bien, on est assisté. Il y a une assistance au niveau, on est protégé dans sa santé. Or là, ce qui se passe, mais c'est pas le premier coup de canif dans l'esprit de la sécurité sociale. Là, ce qui se passe, mais c'en est un de plus. C'est un coup de canif supplémentaire pour dire c'est le malade qui paye. C'est-à-dire que le malade est soupçonné de fraudes. Innombrables sont les articles, les dossiers, les reportages sur la fraude sociale. Il y a eu encore tout récemment un magnifique numéro d'anthologie du magazine L'Express avec une couverture fraude sociale. La fraude sociale par milliards. Nous fraudons dans le domaine social et notamment par rapport à la sécu. Et voilà que vous ne voulez même pas 4 petits euros. Vous avez vu ces gens qui sont atteints d'Alzheimer, vous les avez vus, et le cancer, vous êtes pour, alors vous êtes pour le cancer, vous êtes contre la recherche, vous êtes contre les soins palliatifs, voilà ce que vous êtes. Eh bien, restez avec nous quand même, restez avec nous jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Calcium chanté par un pauvre homme qui a mauvaise mine. C'est une chanson sans calcium, une chanson à la gomme qui manque de vitamine.
C'est une chanson à virus,
une chanson satanique.
Elle est épouvantable.
C'est une chanson pas dans le vent qu'un besoin fortifiant tellement qu'elle est minable.
Les paroles sont squelettiques,
la musique rachitique,
pas question ça.
balance. C'est une chanson sans gimmick,
complètement lymphatique.
C'est presque une ordonnance. C'est une chanson pas dans le coup,
c'est un genre de rock mou,
pas pour le hit parade. C'est une chanson à dénier pour maison de santé, une triste salade. Le seul avantage qu'elle a,
cette chanson rablapla,
il est sur la pochette.
Vous ne courez aucun risque, découpé sur le disque
la petite vignette.
Découpez-la soigneusement,
postez-la sur le champ,
faites-vous porter pâle. Et vous serez, croyez-moi, tous remboursés par la sécurité sociale.
Encore un étage, et voilà tout en haut le cabinet médical. Sonnez et entrez. Alors, on est au cabinet du docteur Ménard, dans la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis, et il a accepté de nous laisser entrer dans l'une de ses consultations avec l'accord évidemment de sa patiente.
Salut Cyril.
D'accord.
Oui, il serait souhaitable de faire quelques autres examens, mais on va être dans des problèmes de... Comme toujours, je t'avais dit la dernière fois, des coûts que cela entraîne. Parce que donc, tu m'as dit que tu vivais avec combien par mois ?
630 euros.
630 euros. Et dès que tu as des soins qu'il faut que tu payes de ta poche, bah tu as
oui.
du mal.
Bah oui, je les fais même pas.
Tu les fais pas.
Oui. Et je me demande même pour le mois de janvier, là, ce qu'ils ont prévu, le 1 euro par boîte de médicaments.
Un demi-euro.
Ah, un demi, ah, parce que moi j'ai entendu 1 euro. Mais ce sera même pour les personnes qui sont à 100%.
Eh oui.
Ouais, bah alors là, faudra faire un tri dans les médicaments, parce que moi, j'en ai 30 de prescrits, 30 boîtes, et donc je serai obligé de faire un tri même là. Parce que les 15 euros par mois, j'aurai du mal.
Oui, il y a un plafond, ça sera limité au début à 50 euros par an.
Voilà, normalement, quand tu auras payé 50 euros, ouais, tu auras arrivé le plafond.
Ça fait 3 mois à attendre.
Sur les médicaments, sur les actes infirmiers et sur les transports en ambulance. Mais ça, les transports en ambulance, il y a longtemps que tu ne les prends plus puisque tu ne peux pas les...
je me traîne jusqu'à l'hôpital. Ouais. Je ne l'ai pas pris quand j'ai été hospitalisé pour une arythmie. J'étais en arythmie et je marchais. Ce qui n'est pas normal.
Arythmie, c'est ?
C'est le cœur qui bat plus comme il faut. Il bat... Enfin, c'est grave, quoi. C'est
voilà,
grave.
Je suis parti me faire faire un électrochoc à pied. Voilà. Je ne pense pas être une irresponsable. C'est ma vie. Et ma vie... J'y tiens.
Moi, je travaille ici à la Cité des Francs-Moisins, donc j'ai à soigner des populations qui sont depuis très très longtemps dans des difficultés économiques. Et quand on vit avec peu d'argent, eh ben, par définition, on a des difficultés à bien se nourrir. Car bien se nourrir, ça a un coût. Et effectivement, les gens ici sont plus au régime patate, régime couscous. Bon, donc on a... un impact, et c'est connu, hein, un impact direct, des gens peuvent vous dire aujourd'hui, enfin des gens ont démontré que vous ouvrez la bouche d'un enfant n'importe, que vous prenez n'importe où, en ouvrant sa bouche, vous savez de quel milieu social il est. Donc, sur la santé, la situation sociale a un impact évident. Donc, une fois que la santé est détériorée, on avait quand même, jusqu'à maintenant, un système de soins qui permettait de soigner tout le monde de la même manière et d'atténuer les conséquences de cette inégalité sociale. Et l'inégalité sociale, elle ne fait qu'augmenter. Donc, voilà, une fois de plus, sont les plus précaires, les plus pauvres, qui vont se prendre encore en pleine poire une mesure qui est particulièrement injuste. L'adage selon lequel il faut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade est un adage qui colle de plus en plus à la situation française. L'idée que derrière c'est un processus de responsabilisation des malades, ça est un gros mensonge. Parce que dans le cas des personnes malades, ils choisissent pas leur maladie. Ils choisissent pas la nature des traitements que l'on donne. Mais ça correspond à une représentation pour un certain nombre de personnes qui gèrent ou qui décident dans ce pays de s'imaginer que tous les gens sont une utilisation, j'allais dire, lucrative des soins, se faire plaisir, consommer du médicament pour se rassurer. Quoi, en gros, toute la population est hypochondriaque et qu'elle a besoin de se rassurer en utilisant de manière abusive un système de soins. Ce n'est évidemment pas cela. La raison ne tient pas. Et puis, la chose le plus grave pour moi, c'est que c'est un changement profond de nature de la protection maladie. Auparavant, depuis 1945, les citoyens cotisent, donc les salariés cotisent à l'assurance maladie en fonction de leurs moyens, et ils utilisent l'assurance maladie en fonction de leurs besoins. Donc on est dans une démarche de solidarité. Tout le monde cotise, les jeunes pour les personnes âgées, les non-malades pour les malades. Avec ce système, on est en train de casser cela, et ce sont les malades qui payent pour les malades. Plus vous êtes malade, plus vous payez. On change de système de protection maladie. Et moi, je pense que les malades, aujourd'hui, ont tout à perdre de ce changement de système, qui était quand même un système universel, basé sur la solidarité, et qui a fait les preuves de son efficacité. Dernière chose, pour moi aussi, s'il y a déficit, car il y a déficit, eh bien, il faut poser la question de la nature du déficit et pourquoi du déficit. On parlait de responsabiliser les malades. Quand un homme politique dit, tient un discours, qu'il soit ministre ou autre chose, sur la responsabilisation des malades, quand on sait que l'État français doit des milliards à l'assurance maladie, je dis là, on se fout de la gueule du monde. Allez faire la morale aux autres alors que vous ne payez pas vos dettes. Quand on ne paye pas ses dettes, ça ne donne pas le droit d'aller faire la morale aux autres.
Au franchise médical, nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, 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 au franchise médical, nous ne sommes pas. Non, 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 nous ne sommes pas.
Il gagne. Ah, on va le mesurer.
Il gagne.
Il gagne, moi je le vois un peu aussi, mais.
Faut sortir le.
Bah oui. On va mesurer. Alors, ça fait 49,8 et 53.
Elle gagne.
Ah, le monsieur, qu'est-ce qu'il va ici? Il va pointer.
Voilà, mais il a joué trop fort. Elle a gagné. Elle a perdu encore. Alors, on ne devoir rien. Oh là là, il y a gros, oui.
Alors on tire en pointe là les boulistes, et derrière les boulistes, ce samedi 13 octobre, on entend une manif qui passe, une manif contre les franchises à Paris. Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Étrange slogan. Et oui, mais il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une culpabilisation, tu vois, un soupçon sur le malade. Il y a un soupçon, le soupçon de la fraude. Si, et il s'agit c'est ce qu'on a entendu dans la bouche du président de la République lui-même, de responsabiliser. Il faut responsabiliser les assurés sociaux, et les responsabiliser, ça veut dire qu'ils sont irresponsables, et irresponsables, ça veut dire qu'ils, eh ben, qu'ils gâchent, qu'ils abusent, qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font en allant chez le médecin ou en allant chez le pharmacien. Ils gâchent, et c'est eux, bien sûr, sont eux qui creusent le trou, l'immense trou de la sécu qui est, on sait pas très bien, 9, 8, 9, 10, 11 milliards d'euros. C'était au moins l'évaluation, 11,7 milliards d'euros en 2007. Mais en soumettant les stock options à cotisation sociale, si lorsqu'on verse des stock options, on appliquait la cotisation sociale au même, de la même façon qu'on le fait pour les salaires, pour le travail, eh bien, on pourrait faire rentrer 3 milliards d'euros dans les caisses de l'assurance maladie. Ce serait quand même déjà, ça permettrait de réduire la taille de ce trou, sans parler évidemment d'autres financements possibles de ce trou. On parle de déficit de la sécurité sociale, mais le terme déficit s'applique à une entreprise qui fait des bénéfices et qui fait du profit. Or, ça n'est pas l'esprit, ni le rôle, ni la mission, évidemment, de la sécurité sociale. Ce que disent aussi ceux qui luttent contre ce projet de franchise, c'est que, au mieux, et c'est inscrit dans le projet, ça permettra de récupérer 850 millions d'euros. 850 millions d'euros, et je précise encore, en soumettant les stock options à cotisation sociale, on a déjà 3 milliards. Donc on se demande pourquoi un tel projet pour un résultat somme toute assez mince. Allons manifester.
Pourquoi ils manifestent, les gens, avec ces gens?
Bah, je pense que c'est pour la médecine, pour les médecins, infirmières et tout ça.
Vous, vous manifestez pas?
Moi, j'ai déjà manifesté, maintenant je me détends un peu. Tout à l'heure, je vais au grand cortège à la fin, là-haut.
Ah, d'accord.
Ah, bah oui, quand même. Il faut le soutenir. Bah oui, c'est notre santé qui est en jeu.
Mais vous, c'est pas normal que les malades, ils payent pour leurs médicaments et tout ça? Il faut responsabiliser les gens un petit peu.
Mais non, on paye des gens en sécurité sociale. Moi, je n'ai cotisé pendant 45 ans, maintenant je suis retraité, il faut que je continue à payer. Alors, je suis malade, on ne me soigne pas, mais payer, il faut que je paye tout le mois. Alors, je suis d'accord avec lui, il faut le soutenir. Il faut y aller, tout le monde dans la rue. Voilà.
Bon, là, vous allez pointer, vous allez tirer?
Là, je vais pointer. Voilà. Tous ensemble.
Alors ça, la touche. Voilà. Tous ensemble.
Le trou de la sécu, c'est les patrons qui l'ont creusé. C'est à eux de le reboucher. Le trou de la sécu, c'est les patrons qui l'ont creusé.
Et revoilà la sécu, bien évidemment, c'est ça dont il est question et dont il va être question dans les temps qui viennent. Alors, il existe, je l'ai dit, une pétition contre ces franchises sur Internet, www.appelcontrelafranchise.org. Appel contre la franchise tout attaché, et l'un des animateurs de cette pétition, c'est Christian Lehmann, qui est médecin généraliste et qui est également écrivain et qui répond à nos questions.
J'étais médecin généraliste, je m'intéressais à la question sociale mais sans plus, et j'ai eu un vrai électrochoc le 27 juin 2006. Je prends une journée de repos sabbatique, je quitte le cabinet médical et je vais à l'Assemblée nationale où l'UMP, on est un an avant l'élection, l'UMP fait une convention santé. Et le soir, le discours de Nicolas Sarkozy, ce discours qui pour moi reste fameux parce que c'est un vrai électrochoc.
Les abus et les fraudes représenteraient entre 5 et 10% des dépenses de santé, soit entre 7 et 14 milliards d'euros. Bah, c'est l'exact montant des déficits. Alors nous devons nous attaquer également aux abus, au gaspillage et aux fraudes, et rappeler aux Français qu'il n'y a pas de droit sans devoir.
Ce discours où il utilise des techniques de Camelot, il parle d'une femme.
J'ai trouvé qu'il y avait une patiente qui avait consulté 75 médecins en un mois.
Qui est vraiment un exemple type.
Je ne sais pas si c'était plus fatigant pour elle que pour les médecins. Mais un côté déprimant. Remarquez, elle avait acheté 12 boîtes d'anxiolytiques par jour. Je reviens sur mon jugement, c'est les médecins qui étaient les plus fatigués.
Il prend un cas totalement pathologique d'une femme qui a un vrai problème psychiatrique et par une espèce de pirouette, il explique donc que ça nécessite et ça légitime les franchises.
Alors je souhaite que les caisses d'assurance maladie, lorsque des anomalies sont détectées par leur système d'information, puissent saisir de façon plus réactive les médecins traitants et les instances représentatives des professions de santé.
C'est-à-dire qu'on prend une personne et à partir de là, à partir de ce qu'on appelle en médecine une histoire de chasse, on explique que le système solidaire ne peut pas tenir puisqu'il y a de telles dérives.
Alors, je suis également partisan de l'introduction dans des conditions équitables d'une franchise sur la consommation de soins. Parce que promettre des dépenses de santé toujours plus grandes sans poser la question du financement, ça n'aurait aucun sens.
Qu'il n'y a pas de problème dans un pays où les Français dépensent des dizaines d'euros pour l'Internet et la téléphonie mobile, est-ce qu'ils fassent la même chose pour la santé ? Ce qui est étrange, parce que je sais que c'est le rêve érotique mouillé de l'Organisation Mondiale du Commerce, hein, que l'éducation, la santé, ça soit la même chose que la bagnole et la téléphonie mobile, tout pour le marché, pour la concurrence libre et non faussée. Mais enfin, en France, a priori, il y a certaines règles, et en particulier, il y a le programme du Conseil National de la Résistance en 1945 qui dit certaines choses, qu'en France, il y a un droit du travail, que certaines choses comme la santé et l'éducation sont sanctuarisées dans le domaine public. En fait, c'est ça qu'ils veulent abattre.
C'est ça qu'ils veulent abattre, dit Christian Lehmann. Et en effet, vous avez été nombreux quand même à noter un certain édito dans un magazine qui s'appelle Challenge, le 4 octobre 2007, sous la plume de Denis Kessler, qui est l'ex numéro 2 du MEDEF, qui est directeur et qui a été directeur d'AXA, qui est directeur d'un grand patron de compagnie d'assurance, etc., et qui nous dit « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes, il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. » Et Denis Kessler, la plume alerte, dit toute sa joie de voir ce système du Conseil national de la résistance, cet esprit et ses valeurs, peu à peu démantelé, et il se réjouit du travail de l'actuel gouvernement et du nouveau président. C'est donc bel et bien quelque chose d'organisé et qui relève de ce qu'il faut bien appeler un dogme.
Quels sont les dogmes qui sont mis en avant ? Alors le premier dogme, c'est, faut être clair, que c'est la faute du patient. Parce que si on parle constamment de
responsabiliser,
et Sarkozy le dit en martelant chaque syllabe, responsabiliser les patients,
la question de la franchise est pour moi une question incontournable, car c'est la seule façon de responsabiliser les patients.
C'est que les patients, ces contre-votants, sont des irresponsables. Alors en quoi serait-il irresponsable ? Eh bien, en fait, en 1945, dans un pays qui exsangue après la guerre, il y a une alliance entre gaullistes et communistes, et le programme du Conseil national de la résistance, c'est entre autres de créer une sécurité sociale solidaire dans lequel chacun, bien portant et malade, va cotiser, et dans lequel les malades seront soignés en fonction de leurs besoins et quel que soit leur revenu. Il a été possible de mettre ça en place dans une France exsangue. Aujourd'hui, 50 à 60 ans après, la droite UMP, qui pourtant se dit héritière du gaullisme, est prise d'une véritable schizophrénie puisque, désirant passer ça au privé, elle est obligée d'enterrer le grand cadavre de Gaulle. Et donc, elle invente ce concept de responsabilisation du patient et en gros, elle se dédouane, elle se déculpabilise en disant la chose suivante. Oui, mais De Gaulle, il avait affaire à une France vraiment malade en 45, c'était des vrais malades. Et nous, c'est François Fillon qui le dit, nous avons affaire à des consommateurs de soins avec des comportements irrationnels. C'est ça la grande invention de la droite UMP, de la droite Sarkozy. Ce ne sont plus des malades, ce sont des consommateurs de soins aux comportements irrationnels. Donc, L'homme politique qui détruirait le système d'assurance maladie solidaire ne serait pas un charognard du Conseil national de la résistance, mais quelqu'un qui simplement est un bon contrôleur de gestion d'un système devenu insane.
Qu'il était bon, qu'il était beau, l'étendue du mes cerveaux, l'on ne savait rien de ce mot aspirine. Déjà éternué à tout va, il avait des négros comme ça, et ça sentait bon l'infusion dans les cuisines. Aujourd'hui on se fait des vaccins, on prend des trucs et des machins, on s'enfile des ustensiles dans les narines. On ne peut plus maintenant être malade comme avant, tout ça à cause des médicaments. J'en ai assez, je n'en peux plus. M'enfiler des trucs dans le nez, dans les oreilles, dans le gosier. Je voudrais bien qu'un jour on cesse de me piquer dans les deux bras et les biceps comme des nougats. Je suis gentil, je suis très bon, mais faut pas me prendre pour un crétin. Et si un beau jour je m'énerve, je le dirai carrément zut. Qu'il était bon, qu'il était beau, l'étendue. Quand on n'était pas bien portant, on s'adressait à grand-maman qui nous préparait un lavement pour une angine. Aujourd'hui pour un panari, on débalise des pharmacies où la moitié de nos économies se débine. On ne peut plus maintenant être malade comme avant, tout ça à cause des médicaments.
Dans son dernier film, Michael Moore dans Psycho, parle de la protection sociale aux États-Unis qui, vous le savez, est catastrophique par millions, c'est par dizaines de millions qu'on compte les Américains, enfin les États-Uniens qui n'ont pas aucune couverture sociale. Et Michael Moore, qui force toujours un peu le trait, dit l'exemple, c'est la France, parce que là, la santé est entièrement gratuite en France, c'est formidable, etc. Alors, elle n'est pas entièrement gratuite, mais enfin, c'est vrai que elle est presque, enfin, elle a fonctionné jusque-là. Mais elle fait l'objet de ces pressions, de ces poussées, on peut imaginer les pressions, évidemment, des assurances privées, pour essayer de gagner cette formidable, cette fabuleuse citadelle. Ce serait quand même extraordinaire que ce soit les États-Unis qui fassent modèle. Et on peut se poser la question et être un petit peu inquiet quand on voit l'admiration qu'éprouve notre nouveau président envers, par exemple, le gouvernement Bush. Il est le seul, et il étonne d'ailleurs les Américains, pour être le seul qui encore éprouve de l'admiration pour George Bush. C'est quand même quelque chose d'inquiétant. Ce serait extraordinaire que ça se passe. Et bien sûr, ça paraît très peu de choses. Une petite franchise de 4 euros, 0,50 centimes d'euros sur une boîte de médicaments. On voit que pour des gens qui sont en grande difficulté, c'est une difficulté supplémentaire. On voit bien sûr que... alors on répond à cela que mais non, on fera du cas par cas, mais bien sûr, dans les cas limites, on aidera les gens, etc. Mais ça, c'est pas l'esprit de la sécurité sociale, ça s'appelle la charité. C'est les bonnes œuvres. Ça n'a rien à voir avec cet esprit du CNR et le principe de solidarité. Donc on voit que ça se dégrade et on voit qu'il y a de quoi s'inquiéter, même si il y a du côté libéral, pour pas dire ultra-libéral, ceux qui militent. D'ailleurs, ils ne disent pas ultra-libéral, ils disent alternative libérale. Et c'est monsieur Éric Prosé qui répond à nos questions.
Alors, on est en ce moment au Café 16, rue de la Pompe, tout près de la caisse primaire d'assurance maladie du 16e arrondissement, avec Éric Prosé. Alors Éric Prosé, vous allez vous présenter. La première chose qu'on peut dire, c'est que vous et la Sécu, c'est pas une grande histoire d'amour.
Non, c'est moi qu'on puisse dire. La Sécu, c'est un système qui a été mis en place par une ordonnance d'un gouvernement transitoire en 1946, je crois, qui était d'ailleurs communiste. Et depuis, ce mécanisme-là n'a pas été réellement remis sur le tapis. Alors, je suis en faveur d'un système de solidarité dans la mesure où c'est pas un système d'assistanat. C'est-à-dire où chaque personne prend bien conscience que une assurance maladie et une couverture sociale, c'est quelque chose qui se gagne. C'est-à-dire que c'est pas un dû qu'on doit utiliser à tout prix, c'est quelque chose qui se gagne. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une différence entre les personnes qui font un investissement personnel de leur argent, de leurs moyens pour arriver à obtenir une bonne couverture, et ceux qu'on va couvrir parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire par eux-mêmes et qu'on va donc les aider. Donc il faut déjà qu'il y ait une différence. Aujourd'hui, en France, déjà pour commencer, on n'accepte pas cette différence. Et j'ai découvert en fait la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'en fait il y a des milliers de personnes en France qui luttent contre la Sécu, qui refusent son monopole, qui refusent son diktat et qui font des démarches dans tous les sens. Alors à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me rejoindre avec d'autres personnes qui mènent des combats, à partager les informations de manière à monter en fait un argumentaire complet pour voir comment on pouvait contester cette omniprésence de la Sécu et donc la liberté de s'assurer.
Donc en fait, le calcul que vous faites, vous, c'est plus que la sécurité sociale ne me couvre pas, qu'il y a des assurances qui me permettraient d'être mieux couvert, je préférerais passer directement dans un système d'assurance privée qui correspond plus à mon...
Voilà. Moi, je me rends compte qu'en 13 ans d'activité, je n'ai pratiquement jamais posé un jour de congé. C'est-à-dire que si je pose un jour de congé, de toute façon, c'est à mes frais. Et comme par hasard, on s'aperçoit que je suis tous les jours au travail. Alors qu'il y a des gens qui arrivent à totaliser des 20, 30 jours par an pour une maladie, un rhume, un ceci, un cela. Et en fait, ce qui m'a été remboursé en 13 ans, ça se compte, c'est inférieur à 1000 euros. Or, moi, en 13 ans, j'ai cotisé à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Toute cette, ce qu'on appelle cette économie administrée de la Sécu, qui consiste à dire qu'une seule entité gère la totalité du système, eh bien aujourd'hui, tout est perverti. On n'a pas un prix par rapport à un service. Aujourd'hui, je veux dire, il y a des questions qui devraient être posées de manière simple. Est-ce qu'une personne qui a 90 ans, qui a été opérée 4 fois de la hanche, de ceci, de cela, est-ce qu'il faut continuer à s'acharner? Est-ce qu'il faut continuer à dépenser 20, 30, 40, 50 000 euros pour soigner cette personne? Mais aujourd'hui, mais comment vous voulez poser la question dans la situation dans laquelle on est? Vous allez vous retrouver devant un comité scientifique qui, de toute façon, sont rémunérés par la Sécu, et ils vont dire « Ah ben oui, il faut ». Mais où est la logique économique quand vous avez une assurance? Eh bien, vous avez une personne qui fait un calcul économique et qui dit, voilà, par rapport à l'ensemble des assurés, voilà ce qu'on peut prendre en charge. Si vous n'êtes pas satisfait par ces conditions-là, eh bien, je vous invite à aller chez le concurrent qui va peut-être vous demander une prime légèrement supérieure, mais qui, lui, va vous assurer sans aucun problème jusqu'à 90 ans et à la 20e opération et vous maintenir en vie, intubé, je ne sais pas quoi, jusqu'à 105 ans, même si vous avez plus de tête. Il faut pouvoir réfléchir.
La logique économique, la concurrence. Vous connaissez bien sûr cette chanson-là, puisque c'est celle qu'on entend quand même toute la journée, du matin au soir, plus le matin que l'après-midi sur France Inter. C'est vrai, mais enfin, on l'entend énormément. Alors, trou de la sécu, déficit de la sécu, qu'est-ce que c'est? C'est la protection sociale, c'est fait pour nous protéger, la sécurité sociale. Et la défense? Ah, tiens, téléphonons.
Vous êtes en communication avec le ministère de la Défense, veuillez patienter.
Oui, ministère de la Défense, bonjour.
Oui, bonjour madame, c'est Renaud Lambert, l'appareil, je suis journaliste à France Inter.
Oui.
Je vous appelle parce que j'aurais aimé connaître le trou de la Défense.
Alors, un instant, je vous mets en relation avec un service.
Merci.
Allô?
Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est Renaud Lambert, je suis journaliste à France Inter. Je vous appelle parce que j'aurais aimé connaître le trou de la Défense.
Ah. Alors sur ce point-là, je peux pas vous aider parce que j'en ai aucune idée. Par contre, j'ai essayé de voir l'info, mais alors attendez, je vais voir. Je vous reprends tout de suite. Hein.
Merci.
Allô ?
Oui ?
Oui, je vais vous passer un officier de presse. Hein.
Ah, très bien, merci.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Je vais essayer de me renseigner sur le fait de savoir si on a bien un trou.
En fait, finalement, aujourd'hui, on demande aux patients d'être responsabilisés. Bon, d'accord, très bien, on sait qu'il y a des abus, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui sont plus exposés. Par exemple, nous, on est à Paris, on sait que les épidémies de grippe, elles sont plus importantes à Paris. Donc, on est plus exposés. Bon, mais on va être un peu plus mis à contribution. D'une certaine façon, les gens qui habitent proche des frontières et qui sont plus exposés à des dangers d'invasion, des choses comme ça, à la limite, on pourrait les responsabiliser aussi et les faire contribuer un peu plus à la défense nationale parce qu'ils ont la responsabilité d'habiter dans des zones qui sont un peu plus dangereuses, quoi.
Ouais, mais c'est... Vous sortez ça, vous soulevez un tollé, là.
Mais on,
c'est ce que je veux dire.
Mais on n'hésite pas à le faire pour la sécu, mais on le fait pas pour la défense.
Oui, mais je vous dis, pour la défense, c'est la responsabilité de l'État de protéger tous les citoyens, où qu'ils se trouvent en France et même à l'étranger.
Mais la santé, c'est la protection des citoyens.
Oui, bien sûr, mais tout le monde n'est pas égal devant la santé ou devant la maladie. Alors que tout le monde est égal devant le danger, alors comme vous dites, d'une invasion ou d'un autre.
Ouais, sauf que les Strasbourgeois, ils ont l'expérience du dernier siècle nous a montré qu'ils sont plus exposés à des dangers d'invasion, quoi.
C'est un peu tiré par les cheveux, quand même. C'est la responsabilité de l'État de protéger ses ressortissants partout où ils se trouvent dans le monde. Et à eux, on va pas leur faire payer un impôt supplémentaire parce qu'ils sont vecteurs de plus de dépenses, à la limite, pour l'État, pour leur sécurité. Parce qu'en même temps, s'ils sont vecteurs de plus de dépenses pour leur sécurité, les rentrées d'argent que leur société pour laquelle ils travaillent fait rentrer à la France, c'est peut-être aussi intéressant aussi, ça. Je suis pas sûr, mais...
Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'envoie un...
Vous envoyez un mail, je vais vous donner l'adresse. Mm-hmm. Moi, fois que j'ai ça, je le transmets au SG1, hein, au secrétariat général pour l'administration, qui désignera le monsieur ou la madame idoine pour vous répondre.
Ouais. Bon, c'est noté. Je vous remercie.
Mais c'est rien.
Bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Bon, Idoine va nous répondre. On saura un peu l'importance du trou de la défense. Merci à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Christian Lehmann, Didier Ménard et Fatima, André Grimaldi, Leila Lost et Giovanni, Eva Puccinelli, Lulu et Daniel. À lire Les Fossoyeurs de Christian Lehmann aux éditions privées, Le mythe du trou de la sécu de Julien Duval aux éditions Raison d'agir, et pour signer la pétition contre les franchises médicales, c'est www.appelcontrelafranchise.org. Appel contre la franchise, tout attaché. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission, la badge si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, la-bas.org. Et puis hier, on a fini sur des chapeaux de roue, donc j'ai pas eu le temps de remercier nos invités qui étaient avec Kempf, Claude-Marie Vadreau, José Bové, Paul Ariès, Marie-Christine Blandin et Jean Ziegler, et puis parler un peu de leur bouquin à tous ces gens-là. Comment les riches détruisent la planète d'Hervé Kempf aux éditions du Seuil, et on l'avait reçu pour ce livre. Pour repolitiser l'écologie, le contre-grenelle de l'environnement de Paul Ariès aux éditions L'Aventurine, l'horreur écologique de l'inutilité du ministère de l'environnement de Claude-Marie Vadreau aux éditions de La Chaux et Niestlé, et l'empire de la honte de Jean Ziegler chez Fayard. Voilà, aujourd'hui c'est Michel Thomas et Cédric Lalanne qui étaient à la technique, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien le dire, assisté de Charlotte Perry, et Christophe Imbert se tient près du répondeur, sagement attendant vos messages, coups de gueule et coups de cœur au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Il y a aussi un mail qui est Daniel. mermet@radiofrance.com. Voilà, et puis n'oubliez pas, toujours, les repères de Là-bas si j'y suis, qui fonctionnent très bien, je vous rappelle en quelques secondes, il m'en reste, le principe, dans votre quartier, dans votre village, vous vous dites qu'il y a des gens, des auditeurs de Là-bas si j'y suis, de France Inter, j'aimerais bien les rencontrer, je dégote un troquet sympa, un bistrot sympa, et puis voilà, je le fais savoir, et on se réunit une fois par mois, ou une fois toutes les semaines, et voilà, et ça marche, il y en a comme ça une soixantaine en France, c'est le moment de la réclame.